carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à Canal Académie. La 18e édition du Festival Berlioz de la Côte-Saint-André dans l'Isère se tiendra des 18 au 28 août prochains. Berlioz, bien sûr, son ami Liszt, et parce que vous savez qu'on fête en 2011 l'année de sa naissance, et le diable, ils seront à l'honneur. Au sein de ce rendez-vous annuel avec Berlioz à la Côte-Saint-André se déroulera un colloque intitulé « Fascinantes étrangetés, la découverte de l'altérité musicale en Europe au XIXe siècle ». Un vaste programme. François Thévenet, secrétaire général du festival, et deux co-organisateurs du colloque, Daniel Piston, de l'Université de Paris-Sorbonne et directrice de l'Observatoire musical, et Luc-Charles Dominique de l'Université de Nice-Sophia Antipolis sont avec nous pour présenter cet événement musical. François Thévenet, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints au téléphone depuis le centre du Festival de la Côte-Saint-André. Pourquoi cette programmation? Pourquoi le thème du diable et de l'étrangeté cette année au Festival Berlioz? Pourquoi la caresse des flammes autour de Berlioz et de Liszt? Et quel est le programme de ces 10 jours? Peut-être bien des 10 jours de sabbat, peut-être.
Oui, effectivement. Eh bien, écoutez, Bruno Messina, le directeur du Festival Berlioz, a trouvé tout à fait légitime d'inclure le diable dans cette programmation consacrée, bien sûr, à Berlioz, puisque nous sommes au Festival Berlioz, et à Liszt pour fêter le bicentenaire de sa naissance. Et le diable y est associé pour beaucoup de raisons. D'abord, il y avait une amitié profonde entre Berlioz et Liszt, puisque Berlioz et Liszt se tutoyaient et Berlioz était très avare de tutoiement. Et c'est Berlioz qui a fait découvrir à Liszt le Faust de Goethe dans la traduction de Gérard de Nerval. Et en retour, Liszt a dédié sa Faust symphonie à Berlioz. Donc le diable était très présent. Berlioz, en plus, on fait souvent commencer la vie de Berlioz à partir de sa vie parisienne. Or, Berlioz a eu une enfance à la Côte-Saint-André qu'il a quittée vers l'âge de 18 ans à peu près. Et on peut imaginer que dans ces terres dauphinoises où il est souvent question de sabbat, de choses étranges qui se passent, dans les contes dauphinois on retrouve beaucoup de contes concernant des sorcières, etc. Il est évident que Berlioz a été en contact avec ces légendes qui circulaient dans les terres dauphinoises.
Donc chevauchée fantastique, orgie de brigands, sabbat de sorcières. Vous allez mettre tout ça à l'honneur cet été?
Eh bien écoutez, oui, dans la programmation du festival, donc du 18 au 28 août, tout tourne autour du diable, de Liszt et de Berlioz, bien sûr. Donc on retrouvera effectivement d'abord les très grands ensembles que nous faisons venir à la Côte-Saint-André.
Je crois que vous recevez Michael Levinas.
Michael Levinas.
Notre académicien des Beaux-Arts.
Voilà, Michael Levinas, que nous aurons le très grand plaisir d'accueillir le vendredi 26 août en l'église de la Côte-Saint-André, église de la Côte-Saint-André où fut baptisé Hector Berlioz. Donc tous ces concerts, nous avons à peu près une cinquantaine de manifestations, dont une moitié environ en entrée libre. Nous avons rajouté dans ces concerts en entrée libre, par exemple, une création de l'ARFI, l'ARFI qui est l'Association pour la Recherche d'un Folklore Imaginaire, où Bruno Messina a souhaité leur faire une commande autour de Berlioz, une commande donc qui s'appelle le Cauchemar d'Hector. Et puis nous aurons également cette image du diable, une commande également confiée par Bruno Messina à Patrick Vaillant sur une balade autour du diable, une balade musicale, littéraire et également cinématographique, on va dire.
Eh bien, merci beaucoup. Je crois que votre programme va bien montrer le personnage de Berlioz et ses amis, tantôt heureux, tantôt malheureux, souvent amoureux, mais toujours exalté.
Toujours exalté, et il nous a paru absolument nécessaire d'inclure dans notre programmation ce colloque donc sur les fascinantes étrangetés, qui avait toute sa place par rapport au thème du Festival Berlioz. Et nous serons très heureux d'accueillir donc cette vingtaine de musicologues, d'ethnomusicologues, pour nous faire avancer dans la compréhension de cette relation entre Berlioz, cette image du diable, Liszt, voilà.
Merci beaucoup François Thévenet. Daniel Piston, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une intervenante aussi, j'ai dit, co-organisatrice, mais aussi intervenante de ce colloque. Et vous allez, entre autres, parler de l'imaginaire musical de Berlioz.
Oui,
et donc, ce 19e un peu fantasmagorique.
Oui, moi je me greffe donc sur ce thème, hein, fascinante étrangeté, où nous voulons montrer ce qu'est l'altérité dans différents pays. Donc, nous irons des mondes créoles aux gitans, hein, du Pays basque à la Corse, de la guitare à la cornemuse. Et certains d'entre nous donc, ont choisi, en rapport avec Berlioz, l'image de l'altérité peut-être par excellence, c'est-à-dire du diable. Donc, personnellement, je parlerai de ce que peut représenter l'image du diable dans l'opéra. Certes, le monde des enfers dans l'opéra est quelque chose de courant. Il nous vient de la mythologie. Et l'opéra baroque connaissait bien les scènes des enfers. Ce qui serait intéressant, c'est de montrer quelle valeur nouvelle ces scènes d'altérité peuvent revêtir au XIXe siècle. Si l'on pense que parfois, ce n'est plus Satan, mais c'est Madame le Diable.
Madame le Diable.
Madame le Diable. Si l'on pense que ce type de scène est relégué dans l'opéra comique, voire dans l'opérette. Pensez à Offenbach, Les Trois Baisers du Diable, où l'on voit toujours ce personnage un peu étrange qui s'insère dans l'univers des vivants. Alors celui-là, il doit être embrassé trois fois, ou plutôt une femme doit lui dire trois fois « je t'aime » pour qu'il soit sauvé. Et c'est toute une histoire de voir cette bûcheronne chez laquelle il arrive, qui réussira à grand-peine, ou pas du tout, ne levant pas le voile, à dire trois fois je t'aime à cet étrange personnage. En fait, on retrouve ça dans la peinture, dans beaucoup d'art. Et je crois que ce n'est pas par plaisir de parler du diable, mais pour voir comment la notion d'altérité, la notion d'étrangeté s'incarne de façon burlesque, et pour quelle raison, au XIXe siècle, jusque sur les scènes françaises.
Burlesque, mais pathétique aussi.
Oui, mais si vous pensez qu'il s'agit du cadre de l'opéra comique et de l'opérette, tout va finir d'étrange façon. On sera très loin de l'opéra baroque.
Et puis, quand vous allez imaginer d'autres intervenants, vous avez parlé de la Corse, Pays basque, Cornemuse, mais aussi Outre-mer, avez-vous dit?
Tout à fait. Nous irons Outre-mer, nous irons même à la danseuse indienne.
Hein, la
question, oui, la question étant toujours de voir comment notre imaginaire a transporté ces altérités, hein, ces objets, ces personnes qui n'étaient pas finalement de notre monde. Qu'est-ce qu'il en a fait? Alors, ce qu'on connaît surtout bien, c'est l'exotisme, comme valeur culturelle occidentale, je dirais assez banale. Nous voulons aller tout à fait au-delà de l'exotisme, hein, en prenant peut-être un côté beaucoup plus ethnologique, beaucoup plus anthropologique. D'ailleurs, ce colloque est fait entre spécialistes de la musique savante, dont je suis, hein, et spécialistes de l'ethnologie, de l'anthropologie, comme l'est mon collègue Luc-Charles Dominique. C'est aussi une union intéressante sur un plan scientifique, parce qu'on a toujours pensé qu'il y avait deux branches de la musicologie difficiles à réconcilier. Eh bien, pour le coup, fascination étrange, elles le seront dans ce colloque.
Je voulais dire que par rapport à la féminité du diable, nous avons aussi une séance de cinéma où nous aurons un film de 1917 avec la transposition féminine du thème de Faust.
Voilà, qu'on connaît bien à travers Hervé, le petit Faust. Moi, j'ajouterais aussi qu'on est très heureux d'être au musée Hector Berlioz, que c'est là quand même que Berlioz a vécu toute sa jeunesse. À l'époque, c'était évidemment une maison privée.
Charles-Dominique, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu avec nous. Et quelle est la figure musicale du diable à travers l'ethnographie musicale du 19e ?
Eh bien, à travers ce que nous ont laissé les ethnographes, dans une littérature quand même assez importante, le diable est soit flûtiste, soit joueur de cornemuse, soit parfois joueur de violon aussi. Donc on a un certain nombre de contes qui ont été collectés, des légendes, des contes, où l'on voit le diable avec ses attributs musicaux. Et puis on a aussi de la composition musicale, puisqu'on a des vaudevilles, le diable violonneux, le diable cornemuseux, on a ça au 19e siècle. Et en fait, c'est un stéréotype instrumental qui est beaucoup plus ancien et qui a caractérisé toute une certaine forme d'instrument de musique dans le mauvais côté, le côté du diable, des sorcières, le côté de la mort, de la danse macabre.
De la terreur.
De la terreur. Oui, c'est vrai que le bruit puissant, le bruit fort, effraie. Il y a une esthétique dévalorisée du bruit en général. Et tout cela caractérise très mal ces instruments de musique. Et on les retrouve aux mains du diable, comme on les retrouve dans les sabbats des sorcières, comme on les retrouve aux mains des squelettes dans la danse macabre, etc. etc.
Et les ballets aussi sont évidemment évoqués.
Oui, la danse, bien sûr, est une activité qui est très évoquée parce qu'en fait, cette danse, souvent, est une danse qui est mortifère. Et le diable est le musicien de danse mortifère. Alors, on a beaucoup de contes comme ça où l'on voit un jeune homme inconnu d'une société locale, dans un village, par exemple, arriver le jour de la fête locale avec son violon, par exemple, et puis jouer des valses. La valse est vraiment le prototype au 19e siècle de cette danse mortifère dans les contes.
Qui entraîne les jeunes filles.
Elle entraîne les jeunes filles et dans une danse qui ne cesse pas et qui s'accélère de plus en plus, jusqu'à épuiser physiquement les participants, et donc la jeune fille est amenée dans la danse de la mort, en fin de compte. Et le musicien en est le diable instrumentiste, qui est parfois aussi le diable danseur. Donc oui, la danse joue un rôle extrêmement important, la danse tournoyante, la danse qui s'accélère, et on a un certain nombre de contes, dont je parlerai dans cette conférence, et puis des légendes qui ont été bâties aussi sur ces contes, et puis des œuvres littéraires aussi, qui ont prolongé ce légendaire et cet imaginaire ancien.
Quelles sont les œuvres littéraires, rapidement, comme ça ?
Je pense par exemple alors, à quelque chose qui est un peu avant le 19e siècle, mais pas tellement quand même, qui est l'ouvrage de Cazotte hein, sur le diable. Mais je pense aussi à Georges Sand, par exemple. Alors, dans Les Maîtres Sonneurs...
La part au diable !
Oui, et puis dans Les Maîtres Sonneurs aussi, il y a une scène assez extraordinaire où on voit tous ces musiciens vêtus de peau, de loup, avec des cornes, donc dans une apparence physique très, très diabolique, finalement. Quoi. Ce sont pratiquement des réincarnations du dieu Pan. Ils se réunissent dans les caves du château de Saint-Chartier, ils se livrent à des rituels extrêmement bruyants, au son de leurs cornemuses cette fois-ci, les maîtres sonneurs, hein, donc ils sonnent des cornemuses, et on a là une vision du diable musicien qui surgit dans la littérature. Mais on a aussi d'autres œuvres comme ça, mineures, ça sont des œuvres majeures au XIXe siècle, mais on a des œuvres mineures qui montrent que l'on a vraiment affaire à un stéréotype, à une construction culturelle qui est beaucoup plus ancienne que l'on trouve déjà au Moyen-Âge, à la Renaissance, à travers l'art pictural aussi, la façon dont on représente la mort, la sorcellerie en général, les enfers. Bon, tout ça, c'est un grand stéréotype culturel et qui ressurgit bien sûr au XIXe siècle, à l'époque où on s'intéresse à l'ethnographie, parce que c'est le XIXe siècle qui invente l'ethnographie. C'est pendant cette période-là que l'on va recueillir les chants populaires, les contes, les légendes, que l'on en fait des recueils. Et tout ce qui est dans l'imaginaire, dans l'oralité, dans l'imaginaire populaire, trouve du coup une correspondance écrite à travers des œuvres qui vont nous rester. Quoi. Donc l'ethnographie fige aussi du coup ce légendaire de l'oralité et pour nous c'est extrêmement intéressant de lire ces correspondances musicales dans des œuvres ethnographiques. Alors je pense aussi au travail très important qu'a fait Claude Seignol sur l'ethnographie du diable, puisqu'il en a publié, enfin en tout cas on en a publié aujourd'hui un recueil qui est extrêmement volumineux. Et là c'est un recueil qui est uniquement constitué de légendes et de contes sur le personnage du diable. Alors très très nombreux évidemment sont les contes qui font mention de diable musicien, de diable danseur, de la mauvaise danse et de la mauvaise musique.
Est-ce que le romantisme, je m'adresse aussi à Daniel Piston, vous deux pourrez bien me dire si le mariage du romantisme et du retour au désir du folklore n'est pas aussi la raison pour laquelle ce diable renaît au 19e ?
Oui, ça certainement. Le romantisme invente le folklore de toute façon. C'est l'époque où on se lance dans toute l'Europe dans des collectes, soit réelles, soit parfois des pseudo-collectes. Je pense aux poèmes d'Ossian par exemple. Alors là, on est juste un peu avant le 19e, mais enfin, les poèmes d'Ossian ont quand même marqué les premières décennies du 19e siècle. Chaque pays qui vient de se forger une identité nationale nouvelle a besoin de se constituer un corpus de contes, de légendes, d'une littérature orale qui va marquer sa nouvelle identité nationale. Et on va demander aux folkloristes, aux romantiques, d'essayer de débusquer l'Homère des temps modernes dans chacune des nouvelles nations, finalement. Donc on est à la recherche, bien sûr, de ce type de légende, et ça va rejoindre tout l'imaginaire fantastique autour du diable, de la sorcellerie, qui ressurgit, mais qui est un imaginaire vraiment pérenne, hein, transhistorique. Il faut savoir que dans l'ethnographie du XXe siècle, jusqu'en 1960, dans les Alpes du Sud, on a encore recueilli des récits de sabbats de sorcières où le diable est musicien, le diable entraîne les jeunes filles dans une danse mortifère, etc. Donc vous voyez, c'est extrêmement présent. Il y a 40 ou 50 ans à peu près, on pouvait encore recueillir ces récits-là, par exemple, dans les Alpes. C'est le travail qu'a fait Charles Joysten, puisqu'on sera à la Côte-Saint-André. C'est la région dans laquelle Charles Joysten a fait toutes ses enquêtes ethnographiques, pratiquement, puisqu'il a fondé le musée ethnographique de Grenoble. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont à la fois très anciennes, très présentes au XIXe siècle et qui vont encore avoir une certaine postérité au XXe siècle.
C'est aussi dans le retour à la nature ?
Alors effectivement, il y a toute une dimension écologiste qui est extrêmement importante à l'époque romantique et qui va fonder aussi les premières grandes politiques patrimoniales dans tous les domaines. Alors ici, le domaine de la littérature orale, mais on va commencer à patrimonialiser alors naturellement les monuments antiques, les vestiges que l'on remet dans un état... Vous voyez, on les exhume évidemment de toute la patine des siècles, mais on va commencer aussi à patrimonialiser les espaces verts, les sites naturels. Donc oui, il y a tout un travail autour de la nature. Cette littérature est une nature-poésie, c'est ce que nous disent les folkloristes, hein, les romantiques aussi. Et donc il y a une conception très naturaliste de toute cette littérature orale.
Alors la musique, l'altérité et la musique hors de nos frontières symbolisent aussi tout ça.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Les romantiques, de toute façon, cultivent l'excès. Donc, c'était tout à fait normal qu'ils se tournent vers le fantastique, vers le diable. Et puis, il y a aussi dans la musique savante le poids des modèles. Par exemple, 1830, c'est Fra Diavolo, hein, d'Aubert. 1831, c'est Robert le Diable. Et on verra encore des opérettes de la fin du siècle qui reviennent à la fameuse scène des nonnes sous la lune, hein, qu'avait montré Meyerbeer dans Robert le Diable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les racines très profondes dont a parlé Luc-Charles Dominique, et puis il y a les modèles de la musique savante, hein, qui exercent leur emprise, c'est-à-dire ceux de l'opéra, d'Aubert, Fra Diavolo, c'était Aubert, qui imprègnent toute la civilisation musicale européenne.
Vous allez donc avoir un programme d'une richesse incroyable, puisque c'est à travers tous les âges et tous les pays hors Europe, tous les pays.
Oui, parce qu'en fait, c'est le regard des compositeurs sur d'abord leur propre folklore, mais les folklores de tous les pays dans lesquels ils ont voyagé. Ou alors tous ces pays lointains, orientaux, dont on a une image plus ou moins précise et fantasmée. C'est tout cela que nous allons aborder dans le colloque. C'est-à-dire comment, en fait, tout cet imaginaire-là, toute cette image-là, toute cette appréhension-là a donné naissance à une composition musicale particulière que l'on va lire, bien sûr, dans la plupart des œuvres du XIXe siècle. C'est pas normé au XIXe siècle, si vous voulez. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de penser, en fait, de constater que les romantiques ont été vraiment, enfin, pas seulement les compositeurs, les écrivains aussi, hein, puisque ce mouvement finalement se prolonge dans le domaine de la littérature orale en général, de la poésie, des contes, comme on le disait à l'instant. Et donc, il y a eu une véritable fascination pour cette culture-là. Bien sûr, on s'est ressourcé à cette culture. C'est-à-dire qu'on essayait de ressourcer la composition musicale, la composition littéraire, parce qu'on estimait à une certaine période, au XIXe siècle, qu'on était arrivé à des impasses créatrices peut-être, qu'on avait besoin de se ressourcer. Mais au-delà d'une dimension purement stratégique et utilisatrice, il y a vraiment une fascination pour cette culture. Il y a une sidération. Je pense à des écrits récents de l'anthropologue Daniel Fabre, par exemple, qui explique à quel point ces créateurs, qui étaient souvent des jeunes créateurs à l'époque où ils ont découvert cette culture, ils sont au début de leur carrière de créateur pour la plupart, sont fascinés véritablement par cette poésie populaire qu'ils découvrent, par cette musique populaire qu'ils découvrent. Ils vont dire c'est de l'art, véritablement. Il y a cette dimension-là. George Sand disait des musiciens du Berry, dans la région dans laquelle elle habitait, elle disait que leur musique était magnifique. Donc il y a vraiment quand même une appréciation esthétique sur cette culture-là qui va bien au-delà d'une simple ressource stratégique et d'une simple utilisation stratégique.
Oui, c'était pas que de la propagande nationaliste, c'était une véritable émotion.
Bien sûr, absolument.
Et puis une reconnaissance des vraies valeurs de tout ce qui s'était fait dans les campagnes. Avec tous des gens qui avaient le sens musical et le sens de la création.
Et puis aussi, on était absolument stupéfait de découvrir une culture de l'oralité. Ça, c'est quelque chose qui a stupéfait les créateurs et en particulier les littérateurs, les écrivains, les poètes qui découvraient une immense littérature de l'oralité. Ça, pour eux, c'était l'altérité la plus totale, bien plus que la musique ou n'importe quelle autre forme artistique. L'oralité, eux qui sont des gens de l'écriture, c'était la forme la plus absolue d'altérité. Et d'ailleurs, c'était la marque, pour eux, d'une culture transhistorique, extrêmement ancienne,
qui remontait
un peu mythologique. Alors, ça va être le mythe de l'Antiquité. Tout ce que l'on va retrouver dans les campagnes, ce sont des vestiges de l'Antiquité. On va considérer les paysans comme des incarnations vivantes de l'Antiquité. Oui, bien sûr, il y a ce mythe. À travers la danse aussi, hein. Les discours sur la danse ont été fortement teintés par ça. La farandole provençale est considérée à ce moment-là comme une célébration aux astres. Enfin, vous voyez, il y a tout un discours mythique parce qu'on considère que cette culture orale qui nous vient du fond des âges a traversé les siècles de façon absolument intacte, non contaminée par le progrès civilisateur et par l'écriture moderne, à l'écart de la culture urbaine, de son évolution, et pense-t-on quand même un peu à cette époque de ses vicissitudes. Et donc, il y a vraiment l'idée d'aller faire de l'archéologie culturelle aussi, quelque part.
Oui, parce qu'en fait, c'est un grand souffle qui vient d'âge en âge et qui correspond à l'humanité, l'éternité de notre condition.
Absolument.
Et vous avez su retrouver ces sources, non seulement les reconnaître, mais les magnifier et les présenter.
Je voulais préciser que ce colloque donc, se dirigera dans la maison de la Côte-Saint-André, le musée Hector Berlioz, à partir du mercredi 24 jusqu'au samedi 27 août. Et que le programme complet est en ligne sur le site du festival, festivalberlioz.com.
Merci beaucoup d'ailleurs. Le programme complet aussi du festival est en ligne. Donc
exact.
Nous avons tout pour savoir ce qui va se passer. Je vous remercie tous les trois.
Merci à vous.
Merci beaucoup.